Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ce matin, on va parler construction, les amis. Donc, si vous n'êtes pas très bricolage, je suis désolé, mais on va vous initier. Non, c'est pas vrai. On va parler de construction. On va prendre une image que Jésus aborde. Mais cette thématique, elle est en lien avec la résurrection. On l'a pu le voir ces derniers dimanches. La résurrection de Jésus. En fait, elle donne du sens à ma vie. Ça marche. La résurrection de Jésus donne du sens à ma vie. Elle ne fait pas que ça. C'est le fondement, le fondement, c'est sur ce sur quoi je peux m'appuyer. Ça change la compréhension de ma vie terrestre. Ça donne accès à une vie éternelle. C'est quelque chose d'incroyable. La résurrection ouvre quelque chose de tout autre, de tout nouveau, qui nous est accessible, mais la résurrection, elle change le sens de ma vie, on la met pas en contradiction, et elle me demande de vivre selon les normes de Jésus. La résurrection du Christ ne fait pas que simplement me donner accès à la vie éternelle, ne fait pas donner simplement accès à la suite. Elle me demande, elle vient me confronter, elle vient me challenger. Parce que Jésus, quand il était sur terre, il nous a expliqué comment vivre selon lui, selon son royaume et aligné sur ce royaume-là. Et c'est pas quelque chose qui va nous attendre pour la fin des temps, c'est quelque chose qu'on commence à vivre dès aujourd'hui. Et il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui a un peu résumé cette pensée en deux grands termes. Alors j'ai des grands auteurs que j'aime bien. Celui-là, c'est Dietrich Bonhoeffer. Ça fait longtemps que j'en avais pas parlé, je trouve, personnellement. Donc je reviens avec ce monsieur, qui parle un peu de cette idée de résurrection, qu'avec la résurrection, Dieu nous fait grâce, et que du coup, si on a une compréhension de la grâce, on peut avoir deux compréhensions de la grâce. C'est une grâce qu'on appelle « bon marché », et il appelle ça, moi j'ai appelé ça un ticket pour le paradis. C'est cette notion, vous voyez, de on reçoit la grâce de Jésus, j'accepte Jésus dans ma vie, mais quelque part j'ai un ticket, comme au cinéma, si vous faites votre réservation pour votre place au cinéma pour aller voir un film. Je sais que j'ai ma place qui est réservée, mais j'ai pas besoin de changer quoi que ce soit. Il n'y a pas un appel à changer ma vie, on prêche la repentance, le pardon des péchés, mais il n'y a pas de repentance, on prêche un changement de vie, mais il n'y a pas de changement de vie. C'est une grâce qui est bon marché. Je vais relire ce que lui écrit dans un de ses livres que je vous conseille. Si vous êtes en vacances prochainement, c'est « Vivre en tant que disciple, le prix de la grâce » de Dietrich Bonhoeffer, qui s'appuie sur le sermon sur la montagne. Donc, la grâce bon marché, c'est la prédication du pardon sans repentance. C'est le baptême sans sanctification. C'est la scène sans confession des péchés. C'est l'absolution sans confession personnelle. La grâce à bon marché, c'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus. La grâce sans la croix, la grâce qui fait abstraction de Jésus-Christ vivant et incarné. Et souvent, c'est une notion de la grâce, de comment on pourrait la vivre, de comment on pourrait côtoyer cette grâce, quelque part, qui n'a aucun impact sur ma vie aujourd'hui. Alors que la résurrection a un impact, c'est pour ça que le titre, l'impact de la résurrection. Et du coup, Bonhoeffer va développer une autre idée. Il dit, en fait, il y a une grâce, et la grâce que Dieu nous propose, c'est une grâce qui coûte. Alors, je précise bien, cette grâce, on la reçoit gratuitement, c'est un don offert de Dieu. Bonhoeffer va aller plus loin dans cette idée qu'on reçoit gratuitement, mais lorsqu'on reçoit cette grâce, elle va nous coûter quelque chose, parce que cette grâce va nous demander de changer. Elle va nous demander d'abandonner notre vie, elle va nous appeler à devenir disciples de Jésus, mais elle va nous coûter notre vie, notre fonctionnement, ce qu'on aimait faire, comment on aimait vivre. Ça va nous demander de nous aligner sur Jésus, et du coup, c'est une grâce qui nous coûte. Et en fait, je vous parle de ça, pourquoi ? Parce que ce matin, le texte que je voulais aborder avec vous va dans cette direction, va dans cette idée. On va parler de deux hommes qui construisent chacun leur maison. Et il y en a un qui construit sur le roc et un sur le sable. Et ce passage, en fait, il est posé, il est institué dans un texte, dans un passage de la Bible qu'on connaît, qu'on peut connaître bien, qui est le sermon sur la montagne. Donc Jésus parle, c'est dans le livre de Matthieu, du chapitre 5 au chapitre 7, et Jésus va parler, va faire plein de discours différents, et on arrive à la fin de ce sermon sur la montagne, et Jésus va conclure ce discours par cette parabole, que je vous invite à lire avec moi. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. C'est un texte peut-être connu par vous. Je ne sais pas si vous avez fait l'école du dimanche, peut-être à votre époque, où on a appris, voilà, le fou sur le sable a bâti sa maison. Je ne chanterai pas ça pour nous épargner un moment douloureux. Mais Matthieu 7, ce passage-là s'inscrit, comme je vous ai dit, dans le sermon sur la montagne, et le contexte de Matthieu chapitre 7, en fait, commence à partir du verset 12 jusqu'au 27, où en fait Jésus est en train de conclure tout ce qu'il dit, et il va mettre, en fait, Matthieu nous révèle ça, en fait, va donner trois images pour nous expliquer qu'est-ce que Matthieu va nous donner trois images sur ces derniers versets pour nous parler de mettre en pratique sa foi. Et à chaque fois, il y a deux catégories. Il va commencer par en disant qu'il y a une porte qui est étroite, c'est le royaume de Dieu qu'il faut chercher, qui est difficile à trouver, mais qui amène à la vie, et que c'est en opposition au chemin large, à la porte large, qui est facile à marcher. Juste dans les versets suivants, il va parler d'un arbre qui porte de bons fruits et d'un arbre qui porte de mauvais fruits. Et cet arbre qui porte de mauvais fruits va aussi, quelque part, vers cette perdition. Et il terminera par une maison qui est construite sur le roc et une maison qui est construite sur le sable. Et il prend ces trois images pour expliquer fondamentalement la même chose. C'est que Jésus s'attend à ce que ce sermon sur la montagne ne reste pas juste une idéologie. Ne reste pas juste quelque chose où on dit « oui, amen, je suis complètement d'accord », mais qui ne change rien du tout à ma vie, à ce que je fais et au comportement que j'ai. Et ça, c'est l'idée du sermon sur la montagne. Et est-ce que vous vous rappelez, c'est une question que je me dis, est-ce qu'on se rappelle de ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne ? Chapitre 5 à 7, il dit tellement de choses. Il y a un concentré qui est assez extraordinaire. Mais si on s'arrête juste sur Matthieu 6, Jésus va parler et va redéfinir cinq choses. Je reviens en arrière. Voilà. Matthieu 6, Jésus va reparler et va redéfinir ce que c'est que l'aumône. Donc c'est le don, la prière, le pardon, le jeûne et vivre sans s'inquiéter. Les quatre premiers, quand Jésus parle de ça, c'est les quatre piliers de la société juive à son époque. Tout tourne autour de ça. Et en fait, Jésus est en train de redéfinir complètement comment on doit vivre et comment un chrétien, quelqu'un qui le suit, doit vivre selon lui. Il va redéfinir ce que c'est que l'aumône, ce que c'est que la prière, le pardon et le jeûne. Et finalement, quand il parle de ça, il s'attend à ce que, pas simplement qu'on dise un « oui, amen », mais à ce qu'on le vive, à ce qu'on le pratique. À ce qu'on pratique l'aumône, quand il dit que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite donne, la prière, entre dans ta chambre, prie en secret, le pardon, si quelqu'un est fâché contre toi, va vers lui pour régler le conflit, et le jeûne, jeûner, simplement, et jeûner en silence, dans le secret, pas pour être vu, et le vivre sans inquiétude. Bon, celui-là, je pense qu'on y arrive tous, donc je ne fais pas forcément... Pas besoin de le développer, ça va. de ne pas s'inquiéter, de ne pas se surinquiéter, n'est-ce pas? Et je trouve que juste ces points-là sont challengeants, sont hyper challengeants. Je ne sais pas vous, mais moi je me rappelle quand j'ai lu ça, la première fois qu'on parle de l'aumône, on parle du don, je me suis converti, ça fait pas très longtemps que je me suis converti, je vais à l'église à ce moment-là, je parle du passé, hein, d'un moment donné, jeune chrétien, et on parle à l'église de faire une offrande, de donner de l'argent, d'être généreux. Moi je suis étudiant, c'est-à-dire que la générosité, oui, mais elle a un prix, très concret. Et un jour, je prie, un jour, je suis en train de réfléchir. Plusieurs fois le dimanche, on parle d'offrande, on parle de dîme, et puis je me dis, ça concerne tous les chrétiens, donc ça me concerne aussi. Comment je me positionne, qu'est-ce que je fais? Je réfléchis, bon, je dis, bon, Seigneur, ok, bon, je veux bien essayer de donner quelque chose. C'est, on donne combien, on prie, etc. J'avais entendu un certain pourcentage. Puis je me dis, bon, d'accord, je vais aller sur ça. Puis je regarde, puis c'est l'argent qui me reste sur mon compte pour la fin du mois. Je fais, oh, mais c'est-à-dire que je vis chez ma mère, ok, j'ai mes abonnements qui sont payés, mais c'est-à-dire avec cet argent, moi j'avais prévu d'autres choses, en fait. Ça fait beaucoup d'un coup, Seigneur. Et puis donc, je réfléchis, je suis dans mon trajet, dans le train en train de rentrer chez moi, puis je négocie un petit peu, je réfléchis, ok, qu'est-ce que je fais vraiment? Est-ce que j'attendrai pas le mois prochain, hein? Qu'est-ce que je fais? Je sors du avant de sortir du train, je prends cette décision dans mon cœur, en disant, non, mais j'ai reçu ça, aujourd'hui, pour ce mois-ci, je le fais. Allez, je le fais. Et puis, on verra. On verra ce qui se passe, et puis, voilà, ça va aller. Je sors du train, et je trouve incroyable comme Dieu, en fait, honore des fois les paroles qu'on prend et prend soin de nous. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est systématique, hein, ce que j'ai vécu. Je précise. Mais je sors du train, je croise un ami, et il me fait, ah, Francesco, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mais je te dois de l'argent, toi. Attends, bouge pas. Il va au bancomat, il revient, il me donne de l'argent. Je dis, merci beaucoup. Je l'avais pas vu, j'avais pas calculé le coût comme ça. Je rentre chez moi, et quand je rentre chez moi, il y a quelqu'un, il y a une tante qui est là, et puis qui vient, et qui fait, ah, ça fait longtemps, Francesco, tiens, j'avais envie de te donner un peu d'argent. Elle me donne de l'argent, et puis je me retrouve à la fin de la journée où finalement, en fait, entre l'argent que j'ai voulu donner et ce que j'ai, il a quasi des fois même doublé ou comme ça. Je dis, Seigneur, merci. Et en fait, quelque part, cet acte de oser donner, c'était pas un acte de dire je donne pour recevoir, mais je donne parce que j'ai envie de donner. Je donne parce que je veux être généreux. C'est pareil pour la première fois que j'ai pris un temps de jeûne. Alors, un premier temps de jeûne, une fois j'ai commencé, je vous invite, si vous voulez essayer, jeûner une journée, un repas une journée, 2-3 jours, après vous augmentez, n'essayez pas de commencer à jeûner 7 jours d'un coup. Enfin, si vous avez reçu une conviction, allez-y, mais un conseil pour pas que ce soit trop compliqué. Et je jeûne 1 jour, 3 jours, et une fois, un jour, avec une église où je suis, ils partent sur un jeûne de 21 jours. Ouais. 21 jours. Alors, c'est un jeûne, on peut manger des légumes, etc. J'ai dit, bon, super. Moi, je pars, je lui dis, ok, je vais prendre et je vais faire ce jeûne de 21 jours. Et je crois vraiment parce que c'est ce que Dieu nous dit, voilà, jeûnez, consacrez-vous, ok, je veux le faire. Et je me rappelle que c'est la première fois de ma vie où je suis dans une école où il faut que je fasse à manger, mais je jeûne. Donc, j'ai pas le droit de goûter ce que je cuisine. Moi, je suis à moitié mauricien, donc je goûte tout ce que je cuisine. C'est ma manière de savoir si c'est bon ou pas. Et du coup, bon, je m'adapte, etc. Et il y en a un autre qui jeûne avec moi. Et cet autre-là, à un moment donné, il s'arrête. Il dit, moi, j'arrête de jeûner. Je vais passer à autre chose. Je dis, bon, très bien. Et moi, je continue mon jeûne. Et je me rappelle qu'un soir, il a ouvert une boîte de conserve de maïs. On est des étudiants, hein. Il met dans son bol et il mange ça à côté de moi. Et je me rappelle la faim que j'avais. Je rêvais de cette boîte de maïs. C'était terrible. Aujourd'hui, c'est terrible quand même, mais... J'avais envie de manger ça et je me rappelle ce sacrifice, ce coup de dire « Ok, je veux servir, Seigneur, je veux faire ce qui est juste pour toi, je veux m'aligner à ta volonté et pas simplement avoir une vie où je m'adapte, je prends ce qui m'intéresse et j'enlève ce qui ne m'intéresse pas de ta parole. » Et c'est ce que Matthieu nous invite en fait dans cette parabole de fonder sa maison sur le roc. Tourne. En fait, fonder sa maison sur le roc, on a ce passage où on nous parle de deux terrains. Il y a le terrain, le roc, et il y a le terrain qui est le sable. Le symbolisme du roc dans la Bible, on peut le trouver dans l'Ancien Testament énormément, c'est un lieu d'asile, de sécurité, un fondement inébranlable, un refuge. On s'assure un salut. Dans le Nouveau Testament, ça dit même que Christ est le rocher spirituel qui abreuve les âmes. Il y a cette notion, le rocher, il y a cette notion du rocher comme symbole de Dieu, de lieu de sécurité, de lieu où c'est Dieu. Et quelque part, construire sur ce terrain, c'est construire sur Dieu. Et on pourrait voir ça très rapidement et conclure très rapidement à cette parabole de dire l'homme sage, il construit sa vie sur Dieu, il croit en Dieu, et l'homme fou ne croit pas en Dieu, il ne construit pas sa vie sur Dieu. Mais ça serait aller un peu trop vite. Parce que, en fait, la pointe de la parabole ne pointe pas sur ça. Il y a cette idée de symbole de roc, et on peut souligner la question du lieu et de la sécurité, le roc et la sécurité, et on pourrait se poser cette question, est-ce que j'arrive à faire de Dieu ma sécurité? Parce que finalement, l'homme sage construit sur Dieu, construit sur le roc, et passe ailleurs, pas dans une autre sécurité que Dieu. Et ça, c'est une question qu'on pourrait se poser suite à cette image du roc. Mais en fait, la parabole s'arrête donc pas sur les deux terrains, mais sur les deux propriétaires. Il y en a un, c'est un homme prudent, et l'autre, c'est un homme fou. Et en fait, on voit, qu'est-ce qui différencie l'homme prudent de l'homme fou ? À votre avis, en lisant les textes, ou en connaissant l'histoire ? La pratique, exactement. Ce qui différencie l'homme fou de l'homme sage, c'est pas leur croyance, c'est pas leur fait de mettre ou de savoir, d'écouter, de savoir que Dieu, que Jésus est Dieu, c'est le fait de pratiquer ce qu'ils ont entendu ou non. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a un homme prudent, sage, avisé, ou quelque part, il a entendu ce que Jésus lui a dit, et en fait, il s'est aligné et il a commencé à agir en fonction de l'enseignement de Jésus. Et quelque part, construire sur le roc, moi je trouve intéressant, je suis allé plus loin dans l'image, parce que j'ai un passé de dessinateur en bâtiment, donc j'imaginais comment construire sur un rocher. Et je me dis, à l'époque, ils n'ont pas forcément non plus énormément d'engins mécaniques pour creuser une roche, pour pouvoir faire un super niveau à zéro, pouvoir poser correctement les choses. Fonder sa maison sur un roc, c'est aussi adapter sa maison en fonction du roc. Ça veut dire que c'est le roc qui définit ma maison, c'est le roc qui définit mes fondements, et c'est moi qui m'adapte au roc. Alors que le sable, quelque part, bah c'est facile. Enfin, ça pourrait être, le terrain est plus simple pour pouvoir poser ses fondements comme on le souhaite, comme on aimerait construire. Cette image va plus loin parce que pour ceux qui écoutent Jésus à l'époque, en Palestine, en fait, à l'époque, je ne sais pas encore aujourd'hui, sûrement, mais j'ai lu de ce qui s'est passé à l'époque, le terrain, il y a beaucoup de roches, c'est dur, et quelque part, c'est logique de construire sur le roc. C'est quelque chose de sensé et de logique. En fait, on pointe vraiment sur l'homme fou ou insensé, parce que quelque part, ce n'est pas logique d'aller construire ailleurs que sur un rocher, sur un lieu solide, puisqu'il peut y avoir des dégâts. Et en fait, ce côté insensé, c'est l'homme qui entend la parole de Dieu, qui entend ce qu'il devrait faire, qui entend ce que Dieu lui dit de faire, mais qui ne change rien. Et qui ne dit, et qui fait, commence même à faire du tri sur ce qu'il va prendre pour lui et laisser de côté. Et quelque part, c'est lui qui adapte la parole de Dieu à sa réalité et il ne laisse pas la réalité de Dieu adapter sa vie. Et fondamentalement, du coup, on a ce changement qui s'opère entre l'homme fou et l'homme sage, entre l'homme prudent et l'homme fou. C'est ces deux aspects-là. Et on peut voir, quelque part, ça c'est l'histoire dans Matthieu, cette histoire se retrouve aussi dans Luc, et Luc va préciser quelque chose, Luc 6, versets 49 et suivants, il va préciser quelque chose de très important, c'est qu'il y a une notion que pour poser les fondements de sa maison, l'homme prudent, il a creusé, et il a creusé profondément, pour pouvoir trouver quelque chose de solide. Et quelque part, il y a cette notion d'effort, il y a cette notion de participation à poser, notre participation à avoir une maison solide, de pouvoir poser et fonder une maison. Et du coup, je me suis posé la question, si le ROX, on pourrait dire, c'est la parole de Dieu, c'est l'enseignement, mais pratiqué, pas simplement reçu et accepté, pratiqué. La maison, c'est quelque part mes actions, mon visible, ce que je fais de visible, ma vie que je construis, les fondations, le fondement, ce qui n'est pas visible, qu'est-ce que c'est ? Je me pose des questions des fois. Pour moi, les fondations de ma maison, c'est ma relation avec Dieu. C'est le non-visible. C'est ce qui sous-tend toute la maison. Hein, une maison qui n'a pas de fondation, c'est une maison qui ne va pas forcément bien tenir. Et quelque part, cette fondation, c'est ce que cette parole va pouvoir mettre en avant. C'est de construire sur cette maison, de construire des fondations solides. Et ces fondations solides, c'est prendre du temps dans ma relation avec Dieu. Et du coup, c'est une question que je vous pose, que je nous pose. Quelles sont les choses que je fais pour prendre du temps et pour soigner ma relation à Dieu ? Quelles sont les habitudes que je prends ? À un moment donné, moi, quand j'ai voulu prendre du temps avec Dieu, je me suis dit, je désire que ma relation à Dieu change ma journée. J'ai envie de le faire. Du coup, j'ai dû mettre mon réveil une demi-heure plus tôt. Je suis du matin, mais une demi-heure plus tôt quand même, c'est quand même difficile. Surtout qu'à un moment donné, moi, je suis dessinateur au bâtiment à ce moment-là. Je commence le travail à 7 heures. Donc, je me lève déjà à 6 heures, donc du coup, je me lève à 5 heures et demie. Du coup, je m'adapte. Qu'est-ce que je fais pour prendre soin de ma relation avec Dieu ? Qu'est-ce que je mets en place ? Comment je mets ça en priorité dans ma vie ? Parce que finalement, dans toute cette histoire, lorsque Jésus parle de pratiquer sa foi, de ce fondement de cette maison, il la parle parce qu'en fait, il voit, et la parabole parle de ça, une tempête arriver. Et cette tempête, on pourrait voir plein de significations parce qu'il parle de pluie, de torrent, de vent. Mais en fait, c'est les problèmes de la vie, c'est les difficultés de la vie, c'est des fois ce qui peut nous arriver dessus et qu'on n'avait pas prévu. En fait, cette tempête, en fait, elle va sûrement venir à un moment donné ou même plusieurs fois dans une vie. Et quelque part, tenir la maison, c'est ce qui nous appelle à vivre, c'est ce qui nous appelle à faire en pratiquant la foi. Il nous appelle à pratiquer notre foi pour que notre maison tienne au travers de la tempête. Ce qui est important de retenir, c'est aussi que construire sur le roc, ça ne veut pas dire que la maison n'aura pas de dégâts. Construire sur le roc, ça veut dire que la maison tient. Mais une maison qui traverse une tempête, il y aura peut-être des choses à réparer, il y aura peut-être des choses à revisiter, il y aura des travaux à faire. Mais en fait, la différence de cette image, c'est qu'il y en a une qui ne tient plus et il y en a une qui tient toujours. Et lorsque Jésus parle de ça, en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas expliqué, mais en fait, si on voit cette parabole, lorsque Jésus parle de cette parabole, il utilise des temps en grec qui ne sont pas forcément explicites en français. Mais en fait, c'est comme Jésus parle de nos vies et c'est comme s'il se projetait déjà dans l'éternité et on fait un coup en arrière, on regarde dans le rétroviseur et on dit voilà, on va faire le point, qu'est-ce qu'un homme sage et qu'est-ce qu'un homme prudent ? Et quelque part, il dit c'est une vision depuis le point de vue de l'éternité et pas depuis le point de vue d'aujourd'hui en disant ok, maintenant je fais le point, est-ce que je suis un homme sage ou un homme prudent ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelque part, Jésus nous dit, mais ça prend une vie en fait, c'est toute une vie de construction, toute une vie à travailler et à faire de Dieu ma fondation et à pratiquer cette foi. Comment est-ce que je prends soin de ma relation avec Dieu ? C'est la question que vous vous posez. Et j'aimerais terminer avec cette phrase finalement, c'est construire sa vie sur Jésus, c'est laisser Jésus nous montrer comment vivre notre vie. Et c'est ça en fait que le sermon sur la montagne, ce que la résurrection nous pousse à vivre, c'est plus vivre selon mes normes, selon ma moralité, selon ma volonté, c'est me soumettre à la volonté de Dieu, me soumettre à ce que lui veut, et quelque part je suis appelé à obéir à ce que lui désire pour moi, et pas à voir ce que moi je veux et ce qui m'intéresse. C'est une position qui me coûte, c'est une grâce qui coûte, et c'est ça l'impact de la résurrection aujourd'hui dans ma vie, et qui amène à des changements, qui amène à un impact de Jésus dans ma vie de tous les jours. Simplement, je vais terminer par prier. Seigneur, moi je te remets, je nous remets entre tes mains et je te prie, Père, pour nos vies. Je te prie que tout ce que tu as pu nous dire, tout ce que tu as pu nous donner comme commandement, comme nouvelle norme, façon de vivre, on puisse le vivre, Seigneur. Je te prie qu'on puisse aligner nos cœurs sur ton cœur, qu'on puisse faire ta volonté. Et Seigneur, que simplement on puisse se laisser interpeller par ton esprit, interpeller par toi dans comment on peut vivre notre vie de tous les jours. Saint-Esprit, je te prie, viens nous parler et que on puisse continuer à être cet homme prudent qui bâtit sa maison, qui pratique sa foi et qui veut mettre en œuvre tes commandements. Et dans le nom de Jésus. Amen.